France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Populisme, troisième épisode. Le populisme est-il de droite, forcément, de gauche, possiblement, ou ailleurs?
On pense parfois que les parasites, ce sont les mendiants dans les rues ou les prostituées sur les trottoirs. Eh bien non, ce qu'il faut vraiment dégager, ce sont nos parlementaires.
Je suis un Gaulois et comme les Gaulois, je ne crains rien d'autre que le ciel ne me tombe sur la tête.
Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien.
Le peuple a-t-il toujours raison? Si c'est pas lui, qui a toujours raison? Le vrai mot fourre-tout, c'est élite. Qui est une élite?
On n'a pas besoin d'un grand représentant qui parle à un peuple muet. Non, le peuple n'est pas muet et il n'a pas besoin de tribun.
Qui est le peuple? Qui est l'élite? Puisque dans les définitions du populisme, on l'a vu, ce qui compte, c'est le rapport élite-peuple. Il s'agit de savoir ce que l'on entend par peuple et par élite, afin de déterminer si telle ou telle proposition taxée de populisme emprunte à la gauche ou à la droite. À moins que, justement, le populisme naisse et prospère du refus de ce clivage qui structure encore nos débats malgré ses imperfections et ses incessantes redéfinitions. Le populisme est-il une forme outrée de la gauche ou de la droite, une proposition qui vient quand l'on constate la désaffiliation du peuple d'une gauche et d'une droite qui, au pouvoir, ne se différencie plus, noyée dans le libéralisme triomphant? Le populisme est-il une réponse vaine à l'impuissance de ces deux camps, ressentie comme telle en tout cas? Depuis le début de cette série de 4 épisodes sur le populisme, nous en sommes au 3e, j'ai bien conscience que nous posons plus de questions que nous, avec nos invités, offrons de réponses limpides. Et vous allez voir que sur le sujet d'aujourd'hui, les historiens, les philosophes, les sociologues que nous allons entendre vont livrer des analyses divergentes. C'est ce qui est intéressant et qui permet de ne pas fermer la réflexion, on va dire ça comme ça, ce sont les charmes de la politique et de la démocratie. Ouvrez vos écoutilles, ouvrez vos chakras politiques. Le populisme de droite ou de gauche? Écoutons l'avis de l'historienne Perrine Simon-Naoum.
On peut les qualifier de droite ou de gauche si tous deux mobilisent une politique, ce qu'on pourrait appeler une politique des affects. Ils ont des ressorts idéologiques et historiques différents. C'est-à-dire que le populisme de droite a une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle en France et établit des frontières qui sont des frontières très tranchées entre le national et ce qui n'en relève pas, utilise une idéologie raciste. Alors que pour le populisme de gauche, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, même si le boulangisme, on sait que le boulangisme est à la fois de droite et de gauche, ce mouvement de la fin du 19e siècle, il y avait des communards et des blanquistes qui étaient boulangistes, mais le populisme de gauche, lui maintenant, doit en quelque sorte combattre tout ce qu'il appelle les hégémonies. Et on retrouve ça chez des théoriciens comme Chantal Mouffe ou Ernesto Laclau, qui est le théoricien du mouvement espagnol Podemos, à savoir qu'il construit des chaînes d'équivalence de manière à montrer que chaque fois qu'on est laissé pour compte dans tel ou tel domaine, ce sont des choses qui s'additionnent. Et du coup, si vous voulez, le populisme de gauche, illustré aussi en France par Jean-Luc Mélenchon, me paraît d'une certaine façon encore plus dangereux que le populisme de droite, dans la mesure où, eh bien, on ne sait pas où va passer la frontière. C'est-à-dire que ceux qui sont exclus, les « eux », comme vous disiez, pour constituer ce bloc des « nous », deviennent finalement une masse de plus en plus importante. Et dans le mouvement révolutionnaire que vise le populisme de gauche, évidemment, cette masse doit être éradiquée.
Olivier Dard, vous êtes un spécialiste de la droite, des conservateurs, des réactionnaires. Vous avez consacré des tas de livres à ce sujet. Est-ce qu'il y a un populisme de gauche ?
Oui, je pense. Et d'ailleurs, incarné par Jean-Luc Mélenchon. Alors, un populisme de gauche qui a sa propre histoire, mais qui n'est pas seulement non plus une histoire française, puisque Jean-Luc Mélenchon, disons pour faire simple, a beaucoup puisé chez un personnage qui s'appelle Laclos.
Ernesto Laclos.
Ernesto Laclos.
Et sa femme Chantal Mouffe, deux chercheurs sur la question.
Deux chercheurs, oui. Enfin, même si Chantal Mouffe refuse de donner une définition, mais Ernesto Laclos, surtout, argentin. Et alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce peuple, tel qu'il est défini dans cette approche, est un peuple qui est au fond censé se construire. On le construit. On le construit par la lutte, on le construit par des combats, etc. Alors que si on reprend le peuple dans la version d'un Jean-Marie Le Pen, le peuple, il est donné. C'est un héritage. Oui. Alors avec, effectivement, dans ce populisme entre guillemets de gauche, un problème qui se pose et qui est la question de finalement savoir qui incarne ce peuple. Et là, dans d'autres exemples étrangers ou dans des travaux qui existent sur ce populisme de gauche, comme ceux de Tarragoni, Federico Tarragoni, etc., on explique que ce populisme de gauche, au fond, ne serait pas incarné justement par un leader, mais par toute une série...
Oui, et là, Jean-Luc Mélenchon est au cœur de cette contradiction, puisqu'il se présente quand même comme le leader un peu charismatique qui veut se faire élire président, justement pour supprimer la fonction de président de la République et l'idée qu'un homme providentiel puisse exister. C'est un petit peu le nœud de la contradiction mélenchonienne. Est-ce que, tel qu'on discute du populisme en ce moment, on a l'impression que finalement, ce sont des moments, il y a des moments populistes. Il n'y a pas une idéologie populiste.
Non, il n'y a pas d'idéologie populiste structurée.
Et d'ailleurs, il n'y a pas un grand livre du populisme.
Le populisme est à la mode parce que c'est aussi le moyen qu'ont trouvé ses adversaires de les anathémiser. Mais quand on regarde, et c'est ce qu'on a quand même regardé d'assez près dans le dictionnaire, bon, on a quand même des situations très très différentes. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de comprendre l'échec de ces mouvements populistes à se fédérer à l'échelle européenne.
Olivier Dard, comme Perrine Simon-Naoun, pense qu'il y a donc un populisme de droite et un populisme de gauche, et ce n'est pas le cas de tous les chercheurs, vous le verrez. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter une interview que j'avais réalisée de Chantal Mouffe. C'était en 2018 pour l'émission À la Hussarde sur France Inter. Chantal Mouffe est une philosophe belge qui revendique, c'est rare, le populisme et le théorise, le populisme de gauche. Chantal Mouffe a travaillé avec le penseur argentin Ernesto Laclos. Ce sont des post-marxistes. Et Jean-Luc Mélenchon s'est inspiré de leurs travaux. Et vous comprendrez, en écoutant Chantal Mouffe, ce que le leader de la France Insoumise a retenu, notamment avec l'idée de la nécessaire conflictualité, par exemple. Chantal Mouffe a écrit « Pour un populisme de gauche » et « La révolution démocratique verte », ces deux livres chez Albin Michel. Bonjour Chantal Mouffe.
Bonjour.
Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous parce qu'on peut vous présenter comme la théoricienne, justement, du populisme de gauche. Vous êtes philosophe belge, vous enseignez à l'université de Westminster et vous avez publié en 2018 une sorte de manifeste titré « Pour un populisme de gauche », c'est chez Albin Michel. Populisme de gauche, c'est la notion qui a structuré l'intuition qu'avait eue Jean-Luc Mélenchon à la fin des années 2000. Jean-Luc Mélenchon vous a lu Chantal Mouffe, vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises. Depuis l'expérience Tony Blair et la conversion des sociodémocrates au libéralisme, le clivage gauche-droite s'était dilué dans ce que vous appeliez l'illusion du consensus. Pour bien comprendre votre pensée, Chantal Mouffe, qu'est-ce que l'illusion du consensus ?
Alors mon argument principal, c'est de dire l'objectif de la démocratie, ce n'est pas d'établir un consensus absolument complet, inclusif, parce que c'est nier la dimension du politique. Quand on pense qu'est-ce que c'est le politique, en fait, il y a deux positions. Il y a la position complète, la position associative, c'est-à-dire le politique, c'est l'espace de l'agir en commun, de la liberté, et l'objectif, c'est d'établir justement un consensus. C'est la conception qui domine en
C'est la démocratie libérale ?
C'est la démocratie libérale.
Depuis Tocqueville,
Oui. Il y a une autre conception qu'on appelle la conception dissociative, c'est-à-dire, ça c'est la conception qui dit que non, s'il y a du politique, c'est parce qu'il y a du conflit. Et c'est un conflit qui est inéradicable. Je veux dire, il n'y a pas moyen, il ne s'agit
pas de... C'est pas pour régler les conflits.
Il faut partir du fait que, vu qu'il y aura toujours des conflits, parce que essayer d'arriver à un consensus qui soit complètement inclusif, donc l'illusion du consensus, ça veut dire qu'on pourrait avoir une société dont l'élément politique a été éradiqué. Hein, parce que si on dit le politique, ça a à voir avec le conflit, et un conflit qu'on ne peut pas dépasser de manière dialectique. Parce que, par exemple, dans le marxisme, on trouve aussi cette idée qu'il y a du conflit, mais c'est un conflit qui est uniquement en pensée en termes de classe.
Voilà.
Et donc, on peut imaginer une société communiste où il y aura plus de classe, donc plus de conflits, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de politique non plus. On ne nie pas le conflit de classe, mais on dit qu'il n'y a pas uniquement des antagonismes.
Voilà, vous
de
voulez le dépasser.
C'est ça. Alors, enfin, le dépasser, c'est-à-dire dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres conflits. Par exemple, il y a des antagonismes au niveau d'autres rapports sociaux. C'est ça. Là.
Le féminisme, par exemple.
Exactement. Génial.
Voilà, c'est une chorale très joyeuse avec des femmes de tous âges. Donc, Canción sobre la huelga feminista, je ne prononce pas très bien, du 8 mars 2018. Vous trouverez ça sur Internet, la vidéo. C'est une grève générale des femmes en Espagne. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, Chantal Mouffe ?
Mes travaux, en fait, depuis le début, depuis Hégémonie et Stratégie socialiste qu'on a écrit avec Ernesto Laclau, en fait, nous avons insisté sur l'importance pour un projet de gauche d'articuler les demandes de la classe ouvrière avec les demandes qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire par exemple le féminisme, c'est-à-dire un projet d'émancipation de la société doit inclure, on ne peut pas se baser uniquement sur les demandes de la classe ouvrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte sur la question du
peuple. On oppose souvent les deux. Est-ce que vous incluez là-dedans donc le féminisme ? Est-ce que vous incluez, par exemple, la lutte pour la reconnaissance des droits LGBT ?
Oui, absolument, absolument.
Mais alors, justement, ça. Souvent, on dit, bon, alors, il y a la gauche sociétale qui s'oppose à la gauche sociale. En France, il y a ce combat, et à l'intérieur, d'ailleurs, aussi, de la France insoumise. C'est un peu compliqué. Est-ce que on peut vraiment allier cette convergence des luttes sociétales et sociales?
Écoutez, d'abord, moi, je n'aime pas trop le terme de convergence des luttes, parce que je crois que les luttes, justement, le problème, c'est qu'elles ne convergent pas naturellement. Mais il faut créer une espèce de synergie, il faut créer une solidarité entre ces luttes. Le projet du populisme de gauche, tel que je le définis, c'est précisément ça. C'est justement l'articulation entre les demandes plutôt économique de la classe ouvrière et les demandes de mouvements sociaux. Par exemple, François Ruffin, lorsqu'il disait qu'il s'était impliqué dans les Gilets jaunes, a dit, et là je suis tout d'accord avec lui, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre ensemble Nuit debout et les Gilets jaunes. Alors là, on a vraiment Nuit debout, c'était beaucoup plus toutes les questions sociétales et
mais
les Gilets jaunes.
Mais convenez que c'est assez théorique. Et en tout cas, en France, et je ne parle pas pour
facile,
les autres pays,
pas,
parce que justement, cette grève en Espagne des femmes en mars 2018, c'était très populaire et très féministe. Là, effectivement, il y avait cette alliance. D'ailleurs, ça continue. Mais en France, c'est compliqué de
réunir ces lignes. Je sais, c'est très compliqué, mais je crois que c'est absolument central. Parce que je ne pense pas qu'on puisse penser... C'est-à-dire, si on veut penser un projet que j'appelle justement de radicalisation de la démocratie... Hein, et lutter pour que les idéaux démocratiques s'appliquent dans une multiplicité de rapports sociaux, on ne peut pas uniquement s'intéresser aux demandes de la classe ouvrière ou des classes populaires ou les demandes sociétales. Il faut vraiment pouvoir articuler les deux.
Ce que vous appelez le moment populiste, parce que vous dites qu'aujourd'hui, on est dans un moment populiste. Alors nous, quand on pense à un moment populiste, on pense plutôt à la droite. Mais ce que vous appelez le moment populiste de gauche, c'est cette alliance entre les luttes sociétales et les luttes sociales ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, nous nous trouvons face à une crise de l'hégémonie néolibérale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une série de demandes qui mettent en question la post-démocratie qui a été la conséquence de 30 années de néolibéralisme. Alors cette post-démocratie, elle a deux aspects. Il y a d'un côté l'idée qu'il n'y a plus de différence fondamentale entre droite et gauche, qu'on peut établir un consensus au centre. C'est l'idée de Blair, hein, la troisième voie.
Bon, ou l'idée de Macron. maintenant aujourd'hui.
Macron, le stade suprême de la pause politique. Mmh. Il faut voir que cette pause politique, elle vient du fait que les partis sociaux-démocrates ont accepté l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Que finalement, quand les citoyens vont voter, ben, ils n'ont pas de véritable choix. Parce que si le centre-droit et le centre-gauche croient qu'il n'y a pas d'alternative et qu'en fait, un parti social-démocrate, la seule chose qu'il peut faire, c'est gérer de façon un petit peu plus humaine, disons, la globalisation néolibérale, un peu plus de redistribution, il n'y a pas de choix. Donc, c'est ça que j'appelle la pause politique. Donc, l'illusion du consensus, parce qu'on nous présentait ça comme étant quelque chose de très positif, quelque chose qui était un progrès pour la démocratie.
Et comme ça bute sur la réalité, une réalité sociale, nous entrons dans un moment populiste.
Alors, il y a un autre élément du moment populiste qui vient en fait de ce que j'appelle le phénomène d'oligarchisation de la société. Avec le développement du néolibéralisme, on a eu la création d'un gouffre de plus en plus grand entre un petit groupe de gens qui deviennent de plus en plus riches et la majorité de la population, les classes populaires, mais aussi par exemple, on a un phénomène de paupérisation de la classe moyenne, de précarisation de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'une explosion exponentielle d'inégalités. C'est ça que j'appelle l'oligarchisation. Alors ça, maintenant, c'est entré en crise parce que nous voyons une série de résistances contre
de tension,
cette post-démocratie.
Les gilets jaunes,
c'est exactement ça. Parce qu'en fait, si vous regardez la demande des gilets jaunes, il y en a qui ont à voir plutôt justement avec la question des inégalités et l'autre avec la question, le référendum des citoyennes, on veut avoir une voix, on veut qu'on nous écoute. Attention, je ne dirais pas que le mouvement des gilets jaunes est un mouvement populiste, mais je crois qu'il y a en France une situation populiste, dans la mesure où il y a une série de demandes sociales qui ne parviennent pas à être canalisées à travers des partis.
Alors on va y venir, et puisque vous parliez de François Ruffin, écoutez ça.
Qu'ai-je entendu durant 2 jours ? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein ? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission, c'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec la philosophe belge, théoricienne du populisme de gauche, Chantal Mouffe. Alors c'est intéressant parce que François Ruffin, député de la France Insoumise, a été devant l'Élysée, c'était en plein cœur de la crise des Gilets jaunes, et il a fait ce texte où il explique, comme vous venez de l'entendre, qu'il veut relayer la colère du peuple. Vous disiez tout à l'heure que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas vraiment un mouvement populiste, ne s'inscrit pas dans votre théorie ?
Ce n'est pas un mouvement populiste, c'est un symptôme d'une situation populiste, parce que pour moi, un mouvement populiste, c'est un mouvement qui a une structuration. Les Gilets jaunes n'acceptent pas aucune forme de structuration.
Moi, j'appelle ils n'acceptent ça... pas d'issue politique, on a l'impression.
C'est ça, exactement. Ils ne veulent pas... Pour moi, c'est un mouvement que j'appellerais peut-être proto-populiste, parce qu'un mouvement populiste, nécessairement, ça ne peut pas être uniquement ce qu'on pourrait appeler la dimension horizontale, il faut une dimension verticale. Pour moi, ça c'est absolument fondamental dans ma conception du populisme
de gauche. Mais alors pourquoi la France Insoumise, qui s'intéresse à vos travaux, Jean-Luc Mélenchon a eu cette intuition de populisme de gauche, pourquoi la France Insoumise, selon vous, n'a pas réussi à devenir la traduction politique?
Ça, c'est la grande question, mais je crois que ça a à voir avec la situation aujourd'hui en France, le fait que ce mouvement des Gilets jaunes a une aversion, pourrait-on dire, totale, envers ce qu'il voit comme étant la politique traditionnelle.
Hein, donc la gauche incluse. C'est-à-dire que le mot gauche pour les Gilets jaunes ne veut rien dire de particulier.
Ce n'est pas un mouvement qui a été récupéré par le Rassemblement National non plus. Hein, je veux dire, ils refusaient d'avoir un débouché politique.
Non, mais à l'issue de ce mouvement, le Rassemblement National a fait un meilleur score dans ce contexte-là que la France Insoumise, qui a beaucoup baissé dans ce contexte-là.
Oui, oui, oui. Alors, honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que si on regarde quelles étaient, la plupart, pas toutes, hein, des revendications des Gilets jaunes, on les trouve dans le programme L'Avenir en commun de la France insoumise.
Notamment sur la démocratie directe.
Oui, c'est donc il y aurait dû y avoir la convergence. Je ne pense pas que ça soit la faute de la France insoumise. C'est simplement le résultat, si vous voulez, de plusieurs années ici en France, les gens, vous parliez dans votre présentation des affiliations populaires, mais c'est ça exactement. Et je crois par exemple que les indignés en Espagne, Occupy Wall Street, ces mouvements, dans la mesure où ils refusent aussi tout débouché politique, à un moment donné, ils perdent de leur puissance et ils n'ont pas un véritable impact. C'est ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street, c'est ce qui s'est passé avec les indignados.
Vous dites proto, est-ce que c'est une étape et dans un deuxième temps, ils vont peut-être intégrer les appareils politiques et,
c'est une possibilité,
se prendre en main.
Mais ce n'est pas du tout la solution possible, parce qu'il aussi, il est très possible que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, après un certain temps, disparaisse en tant que mobilisation importante. Alors, ça a déjà eu des conséquences importantes, hein, je veux dire. Mais parce qu'en fait, Occupy Wall Street ou les indignés. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des indignés, par exemple, et ça nous ramène à la question du populisme de gauche, c'est que il y avait aussi une situation populiste, dans la mesure où ces indignés, c'était aussi intéressant de voir, ils ne se réclamaient pas du tout de la gauche. Hein, les indignés, ils voulaient la démocratie réelle, la démocratie réelle maintenant. Le problème, c'est que comme ils ne voulaient avoir aucun rapport avec des partis syndicats ni rien, ça a perdu, si vous voulez.
Ça s'est noyé dans le sable, voilà,
oui,
de la politique quotidienne.
Lorsqu'il y a eu des élections législatives en Espagne, c'est le Parti populaire qui a gagné avec une majorité absolue, la droite. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'est né Podemos, parce qu'il y a tout un groupe de jeunes politologues de l'Université Complutense qui se sont dit « Non, mais on ne peut pas... »
Il faut structurer et faire de la politique.
On ne peut pas laisser ça comme ça. Et à ce moment-là, ils ont créé Podemos. Et Podemos, alors, j'ai fait un livre avec Inigo Errejón, qui était donc à ce moment-là le numéro 2 de Podemos, où il dit très clairement « Nous ne sommes pas le parti des indignés, mais nous n'aurions pas pu exister et naître s'il n'y avait pas eu les indignés, vous voyez ?»«
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débrides.
c'est la chanteuse Clara Isée, Douce, sur France Inter.
Thomas Legrand.
Enquête de politique, troisième épisode de la série sur le populisme, déjà entièrement disponible en podcast et réalisé et mis en onde par Christophe Imbert, archive sonore Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. Vous pouvez nous écrire un message, hein, vos commentaires ou vos idées de isme à traiter durant cette saison. On les lit avec plaisir et ça nous inspire, n'hésitez pas. Chantal Mouffe est avec nous, philosophe, théoricienne du populisme de gauche. Alors il faut qu'on parle du mot populisme, parce qu'en France, le populisme, pour nous, c'est un peu l'autoritarisme. Hein. Ça nous rappelle, à la fin du 19e siècle, l'aventure Boulanger, ou le poujadisme, ou le lepénisme version Jean-Marie. Et puis, il y a eu cette définition de Pierre-André Taguieff, le populisme, c'est la relation directe entre un homme providentiel, et le peuple sans passer par les corps intermédiaires. C'est tout à fait autre chose dans votre esprit. Le populisme peut être de gauche, c'est pas un oxymore.
Pour moi, le populisme... ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, ça n'a pas de contenu programmatique spécifique. C'est une stratégie de construction de la frontière politique. Alors c'est pour ça qu'au début de notre conversation, je faisais référence à la conception dissociative, dans la mesure où on accepte que la politique, ça a à voir avec le conflit. Donc, il y aura toujours... Alors là, il y a quelque chose que je veux introduire parce qu'on en discute beaucoup en France. La politique, c'est toujours partisan et c'est toujours la création d'un « nous » par rapport à « eux ». Ça, c'est fondamental. C'est ça, la politique. Et c'est partisan. Et
il faut trouver une ligne de fracture entre le « nous » et le « eux ».
Et justement, cette ligne de fracture, donc, c'est ce que j'appelle une frontière politique, elle peut être construite de façon différente. Par exemple, le marxisme construit une frontière politique, mais entre le capital et le travail. Non, la façon populiste de construire la frontière politique, c'est différent. C'est le construire sur la base ceux d'en bas et ceux d'en haut. Et ce qui est important ici, et alors ça a à voir avec la possibilité d'un populisme de droite et d'un populisme de gauche, c'est que cette distinction entre le peuple, ce n'est pas un référent empirique, c'est une construction politique.
Nous sommes le cri du peuple.
Discours de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle de 2012, place de la Bastille à Paris.
Des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple, celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple, celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Je vous appelle à commencer ce printemps des peuples.
La façon du populisme de droite, c'est une faire référence au peuple qu'on construit de façon ethno-nationaliste, pourrait-on dire. Hein. Mais la façon du populisme de gauche, c'est construire, alors on parlait avant de... articulation de différentes luttes. Par exemple, c'est ça, le fameux thème de
la chaîne d'équivalence. Voilà,
la chaîne d'équivalence, exactement. Alors, la chaîne d'équivalence, c'est articuler toute une série de demandes démocratiques. Donc, les demandes de la classe ouvrière, les demandes de la classe moyenne précarisée, les demandes du féminisme. Alors, le peuple du populisme de gauche, écoutez, un peuple, en fait, c'est une volonté collective. C'est un « nous ». Ça implique la définition d'un « e ». Et le « e », ben, écoutez, par exemple, le « e » pour le populisme de droite, ce sont les émigrés. Tandis que, par exemple, pour le populisme de gauche, le « e », c'est le capitalisme financier, c'est ce qui est au centre de l'hégémonie néolibérale, c'est-à-dire ce sont les fonds de pension, les hedge funds, toutes ces choses, c'est ça.
Voilà, c'était Chantal Mouffe, enregistrée en 2018 pour l'émission « À la hussarde ». Vous venez d'entendre la théoricienne du populisme de gauche, Chantal Mouffe. Alors, je ne sais pas si elle vous a convaincu, mais voici maintenant l'historien Pascal Horry, grand spécialiste de l'histoire contemporaine. Et écoutez bien, le populisme de gauche, pour lui, eh bien, c'est une hérésie.
Dans ma définition, il ne peut pas y avoir un populisme de gauche. Alors, le populisme de gauche, ça a été lancé, pour simplifier, par des intellectuels marxistes en déroute.
Ernesto Laclau et Chantal Mouffe.
Pour citer les principaux. Mais j'y vois surtout un renoncement à ce qui fait la spécificité du populisme qui permettait de faire la distinction entre une gauche radicale, moi je parle de gauche radicale, et le populisme, c'est que dans ma définition, le populisme est une droite radicale dans un style de gauche radicale. En particulier, l'appel au peuple, la critique des élites. La critique des élites, elle est là dès le début, dans tous les mouvements populistes. Il faut dire qu'il y a une manière d'interpréter la souveraineté populaire dans un sens autoritaire, qui est ce que j'appelle le populisme. Il y a par ailleurs une tradition de la gauche radicale. Et je répète, chez Boulanger, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de la gauche radicale qui fait un bout de chemin, mais l'autre partie de la gauche radicale dit « Ah non, quand même, on va quand même pas aller jusqu'à soutenir ce militaire qui fricote avec les monarchistes. » Donc, il y a toujours une alternative. Le point commun, bien sûr, c'est la radicalité. Mais moi, je ne mets pas toutes les radicalités dans le même sac.
Enquête de politique sur le populisme. Y a-t-il un populisme de gauche ? On continue notre exploration contradictoire avec le sociologue Gérald Bronner, l'inventeur du terme démagogie cognitive. S'agissant des ressorts numériques du populisme, les réseaux sociaux favorisent-ils le populisme ? Eh bien, ce sera l'un des thèmes du dernier numéro de cette série d'enquêtes de politique samedi prochain. On y retrouvera donc plus longuement Gérald Bronner. Mais déjà, qu'en est-il du populisme de gauche ou de droite pour ce sociologue, auteur de Apocalypse cognitive aux presses universitaires de France. Quand il s'agit de populisme, donc de démagogie, le brun l'emporte toujours sur le rouge. Gérald Bronner.
La démagogie cognitive d'extrême droite galope quand la démagogie cognitive d'extrême gauche ne marque au pas, en quelque sorte. Et on le voit par exemple aux États-Unis. C'est un grand mouvement de retrait des livres, n'est-ce pas, des bibliothèques, etc. Et ce mouvement, il s'est développé notamment à l'occasion de la pandémie, parce que les mamans ont commencé à regarder les bibliographies, en quelque sorte, de leurs enfants, et elles se sont aperçues qu'il y avait des livres qui ne leur plaisaient pas. Et il y a un taux de retrait qui devient véritablement hallucinant aux États-Unis d'année en année. Donc là, on a des chiffres pour mesurer ce mouvement, sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas le wokisme, en fait, qui retire des livres, il en retire aussi, mais il en retire beaucoup moins que l'extrême droite et que les demandes réactionnaires. Même si les choses commencent d'ailleurs avec, en quelque sorte, les demandes woke, eh bien, par réaction à ces demandes, on a tout à coup une partie de l'extrême droite, de la pensée réactionnaire, je ne sais pas comment l'appeler, eh bien, qui va demander aussi à retirer des livres. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que l'extrême gauche drague et que l'extrême droite couche.
Belle expression. Et finalement, ce que vous venez de nous expliquer, c'est un effet de la polarisation. Parce que la polarisation des débats conduit à la mécanique que vous venez de décrire, et la polarisation des débats est accentuée et mécaniquement promue par les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Et c'est aussi un autre effet des super spreaders, des super users, c'est-à-dire de l'influence de certaines minorités, et puis de notre passivité. Vous vous rappelez ce que disait John Stuart Mill, le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison. Et la plupart d'entre nous, eh bien, on baisse la tête en quelque sorte face à certaines extravagances, et c'est souvent l'autre forme de radicalité qui répond à ces extravagances, en l'occurrence là, on va dire le wokisme et l'extrême droite. La plupart d'entre nous, on baisse la tête, on n'ose rien dire de peur d'être taxé d'extrême droite ou d'extrême gauche en l'occurrence, de forme de radicalité de part et d'autre. Et le drame, c'est que certaines propositions démagogiques, qui viennent en particulier de l'extrême droite, commencent à grignoter l'espace public, parce que ceux qui ne disent rien, certains d'entre eux en tout cas, ont parfois la tentation de se dire « mais dans le fond, le bon sens, il est défendu ici ou là, n'est-ce pas ?» Et donc, c'est encore une confusion, encore une fois, entre la visibilité de certains arguments et leur représentativité.
Le bon sens est complexe, et les réseaux sociaux n'aident pas la complexité ?
Ah, certainement pas, oui, les réseaux sociaux, elles aident des interprétations monocausalistes, c'est-à-dire fondées sur une seule cause, alors que le réel social est souvent multifactoriel. C'est pas, il est rare de trouver une variable qui explique l'intégralité de la variation d'un phénomène. Oui.
Alors là, vous commencez peut-être, j'espère, à y voir un peu plus clair. Eh bien, écoutez ce qui suit. Je suis allé rencontrer Antoine Chollet, historien des idées politiques à Lausanne, pays de la démocratie directe. Ce qui intéresse Antoine Chollet, son objet d'étude, c'est surtout le discours anti-populiste. Quand on parle des leaders d'extrême droite qui ont le vent en poupe en ce moment dans le monde, eh bien, le terme populiste est, pour lui, impropre. Nous voilà bien.
Alors moi, je n'utilise pas le terme de populisme pour les qualifier, qui est une forme de simplification sans doute, mais ça c'est le propre aussi de tout discours politique. Et je ne pense pas que ce soit la caractéristique principale des mouvements d'extrême droite. Les mouvements d'extrême droite, c'est des mouvements qui attisent la haine, qui montent des parties de la population contre d'autres, qui désignent des boucs émissaires, qui désignent des responsables de la situation, qui remplacent, comme le dit un de mes collègues, la question du quoi par la question du qui, c'est-à-dire qu'il s'agit de désigner des personnes. Et ça, c'est l'histoire des mouvements d'extrême droite ou des mouvements fascistes. Si vous reprenez les textes qui ont été écrits sur le fascisme italien ou sur le nazisme, vous trouvez exactement le même type de construction rhétorique, de transformation du discours, etc. Donc là, je pense qu'on fait comme s'il y avait une nouveauté depuis 20 ou 30 ans dans les systèmes politiques européens ou nord-américains, ce qui ne me semble pas être le cas. Et en assimilant en plus ces partis d'extrême droite à toute une série d'autres mouvements qui ne sont pas issus de l'extrême droite, que ce soit Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, ou même Jean-Luc Mélenchon en France, eh bien, on mélange véritablement des choses qui ne doivent pas être mélangées, qui doivent être tenues clairement séparées dans le vocabulaire, dans l'analyse politique.
C'est-à-dire que le mot populiste ou populisme euphémise l'extrême droite ?
Ah, complètement, complètement. Bon, ça c'est quelque chose qu'Annie Kolevald avait montré déjà il y a à peu près 20 ans, donc il y a une forme d'euphémisation en disant attendez, on n'est pas en face de mouvements fascistes, on est en face de mouvements moins dangereux qui vont s'effondrer finalement, ce sera un feu de paille comme le poujadisme dans les années 50, comme le boulangisme au 19e siècle, donc ne nous inquiétons pas trop. Et d'ailleurs, les succès absolument stupéfiants du discours antipopuliste pour lutter contre l'extrême droite, c'est-à-dire, je le dis de manière totalement ironique, puisque toute une série de leaders d'extrême droite se sont retrouvés au pouvoir, montre en réalité que cette stratégie n'est pas la bonne.
Autre son de cloche, démonstration à l'appui avec Martial Foucault, professeur de sciences politiques au CEVIPOF et co-auteur des Origines du populisme au seuil avec Yann Algan, Elisabeth Besley et l'économiste Daniel Cohen. Ils se sont posés la même question que nous aujourd'hui, le populisme, gauche, droite, les deux, aucun des deux. Pour répondre à cette question, les auteurs se sont intéressés à un indice assez convaincant, le niveau de confiance des citoyens les uns envers les autres.
On a eu beaucoup de difficultés, de longs débats pour mettre sur un pied d'égalité deux familles politiques, la gauche radicale et la droite extrême. Ce qui nous a immédiatement empêchés de parler d'un populisme de gauche et d'un populisme de droite.
Le seul critère qui tient pour utiliser cette expression, populisme à la fois pour la gauche et pour la droite, c'est élite-peuple. Les autres ne tiennent pas.
Nous, ce que l'on met en évidence, c'est qu'on aurait tort de simplement caractériser le populisme par l'opposition peuple contre les élites. Pourquoi ? Parce que, et c'est tout le travail qu'on a entrepris, c'est de comprendre de quoi et comment se nourrissent l'opposition aux élites. Et là, on a découvert de grandes différences entre ce qu'on pourrait qualifier trop rapidement et imparfaitement un populisme de gauche et un populisme de droite. Alors c'est vrai que dans l'ouvrage, on a décidé de prendre l'expression d'une gauche radicale et d'une droite populiste. Pourquoi ? Parce que en France et partout en Europe, je dirais que le populisme de gauche et le populisme de droite ont en commun un rejet des institutions. Et vous avez raison de dire que, oui, il y a une partition qui se joue
d'opposer... Oui, mais c'est vrai que c'est un peu court comme définition, on peut être très modéré et constater que les institutions sont à bout de souffle.
Il faut dire qu'en France, on a quand même une singularité dans le paysage européen. La défiance à l'endroit des institutions est très sévère.
Oui.
On a l'habitude de dire que dans les pays du Nord, il y a une tradition... presque protestante, et de soutien aux institutions. Bon, eh bien, quand on voit un petit peu la scène politique se dérouler en Suède, là, très récemment, mais aussi en Finlande, on observe des niveaux de confiance dans les institutions qui s'érodent au fil du temps. Donc, pour nous, c'est un critère et c'est un signal de conditions favorables à l'émergence de mouvements populistes. Alors maintenant, il faut distinguer
la différence
gauche et droite. Nous, on a essayé de mettre en évidence un phénomène peu étudié jusqu'alors, qui est de regarder parmi les citoyens qu'est-ce qui active chez eux une opposition au système. On a tiré ce fil en mettant en évidence deux grands phénomènes. Pas simplement la confiance que j'appellerais la confiance politique vis-à-vis des institutions ou des représentants élus, mais davantage la confiance vis-à-vis des autres membres d'une société. Donc la confiance qu'on appelle la confiance sociale ou confiance interpersonnelle. Est-ce que j'ai confiance dans l'autre ? Et parler de cela, c'est introduire cette question de l'altérité. Dans des sociétés qui se transforment, le rapport à l'autre, il n'est pas toujours assuré par des institutions parfois un petit peu vieillissante.
Alors là, il faut se référer à votre livre, parce qu'il y a des tableaux très explicites, dont un à la page 68 qui est particulièrement parlant, où vous avez fait une sorte de taux de confiance. Il y a le taux zéro, c'est la moyenne pour les Français, leur confiance, d'abord dans votre famille, vos voisins, vos connaissances, nouvelles rencontres, confiance envers les personnes d'une autre religion ou d'une autre nationalité. Tous ceux qui ont voté, alors on parle du vote de 2017, Mélenchon, Macron ou Fillon, ont un peu plus confiance que la moyenne nationale. On rappelle que la moyenne nationale n'est pas très bonne, mais en tout cas, ont un peu plus confiance que la moyenne nationale dans leur famille, dans leurs connaissances, même dans les nouvelles rencontres, sauf les électeurs de Fillon qui ont un petit peu moins confiance que la moyenne nationale dans les personnes d'une autre nationalité. Et alors, ceux qui ont voté Marine Le Pen sont dans la défiance totale, même envers leur propre famille. Et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont plus confiance aussi. Donc là, il y a une vraie différence fondamentale.
C'est cette différence qui nous a conduit à ne pas employer le terme de populisme de gauche. C'est vraiment ce critère-là qui est la confiance vis-à-vis des autres.
Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas dans la défiance, ou en tout cas sont moins dans la défiance que la moyenne nationale des Français.
Tous les populismes dans le monde ont un niveau très élevé de défiance vis-à-vis des institutions. Donc ça, c'est le trait commun. Il y a un deuxième trait commun, le vote pour le Front National et maintenant le Rassemblement National, se nourrit de personnes insatisfaites de la vie qu'elles mènent. Et donc, les partis politiques en place, cette fameuse oligarchie dont on parlait tout à l'heure, n'a pas permis de répondre à leurs demandes sociales, et finalement, ces partis n'envisagent même plus des promesses d'un lendemain meilleur. Donc ces gens ne sont pas satisfaits de la vie menée. Et quand on construit une opposition élite contre le peuple, être insatisfait de sa propre vie, je dirais que c'est un argument assez simple à manipuler. Donc on s'est dit, mais est-ce que dans le monde, et on a beaucoup travaillé sur une quinzaine de pays européens, on retrouve ces deux traits? Et oui, effectivement, défiance vis-à-vis des institutions, insatisfaction de la vie, ça produit du populisme. Pour nous, ce n'était pas totalement satisfaisant parce qu'on voyait des différences dans le vote, dans la sociologie des électorats. Je reprends votre exemple de 2017 pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc on a introduit une troisième dimension, la confiance vis-à-vis des autres. On fait une distinction entre ce qu'on appelle le sociotropisme et l'égotropisme. L'égotropisme, c'est-à-dire au fond, votre vote va dépendre d'intérêts personnels satisfaits. Parce que vous considérez que ce candidat, ce parti politique, va vous assurer une satisfaction d'intérêt personnel. En France, on est davantage, et globalement, dans l'ensemble du corps électoral, proche du sociotropisme. Ce qui compte pour les gens, c'est que la situation dans l'ensemble, la situation de la société, s'améliore.
Ça, c'est important. On est un peuple politique, et ce qui est positif, c'est qu'on considère que son égotropisme, finalement, s'insère, c'est-à-dire que son bonheur privé ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas collectivement un progrès ou un bonheur collectif. Voilà.
Absolument. C'est
plutôt rassurant.
Oui, ce sont des éléments rassurants. Mais c'est pour ça que dans le populisme, il n'y a pas que des éléments négatifs. Et d'où la grande difficulté à définir de façon stable cette notion.
C'est-à-dire que le populisme ne veut pas dire une surdimension de l'égotropisme par rapport au sociotropisme.
Absolument pas. Effectivement, il n'y a pas de dimension d'intérêt personnel, comme on aurait pu le voir dans l'émergence de partis libéraux anglo-saxons, où c'était la question des intérêts personnels, oui. C'est-à-dire la satisfaction, comme disent parfois les économistes, la maximisation de son bonheur l'emporte sur toute dimension sociétale.
L'impôt, par exemple, n'est pas le premier argument du vote Le Pen.
Absolument pas. En revanche, quand on a intégré cette dimension personnelle, ça ne veut pas dire pour autant que les citoyens ne peuvent pas ressentir un sentiment de dégradation d'une vie personnelle. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ça augure une séparation entre la gauche radicale et la droite populiste. À gauche, pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, on peut dépasser cette situation personnelle par précisément le rapport à l'autre. Et donc cette confiance sociale que vous évoquiez tout à l'heure avec l'ensemble des acteurs, les voisins, la famille, les collègues de travail, des gens qu'on rencontre pour la première fois, dans l'ouvrage, on démontre qu'effectivement, à partir du moment où vous avez confiance dans les autres, alors votre perspective politique peut réenclencher un rapport à l'État extrêmement fécond. Alors qu'à droite, quand vous n'avez pas confiance dans les autres, comment peut-on imaginer qu'un État redistributif qui met en place des politiques sociales pour sortir d'une condition où les gens sont insatisfaits de leur vie personnelle, comment cet électorat peut considérer que l'État va changer leur futur? Et donc on a cette rhétorique que vous évoquiez tout à l'heure, de l'opposition du « eux » et « nous ». Si l'État intervient pour l'électorat de Marine Le Pen, ce n'est pas pour « nous », c'est pour « eux ». Le « eux » étant les gens en qui on n'a pas confiance.
Mais alors là, il y a une petite contradiction parce que, qu'il faudrait peut-être expliquer. Parce que, par exemple, le vote populiste américain pour Donald Trump, c'est un vote de défiance envers l'État. C'est l'histoire des États-Unis. Le petit blanc, comme on dit, qui a voté Donald Trump, n'aime pas Washington, n'aime pas ceux qui gouvernent à Washington, ni l'institution, n'aime pas l'État fédéral. C'est pas tout à fait la même chose pour les électeurs de Marine Le Pen qui veulent un État fort, qui veulent des services publics puissants. Ils ne remettent pas en cause l'État.
Ah oui, moi je ne mettrais pas sur un même plan l'électeur de Donald Trump en 2016 et l'électorat de Marine Le Pen en 2017 ou 2022, parce que le rapport à l'État, il est profondément différent. La nation française, c'est une histoire imbriquée dans l'État français. Ici, on continue sur l'exemple américain, on va retrouver en revanche une permanence entre la France et les États-Unis, c'est que le fameux électeur, on dit blanc du Midwest, le fameux redneck, n'a pas confiance dans les autres. À partir du moment où on n'a pas confiance dans les autres, on ne peut pas avoir confiance dans la capacité d'un ensemble constitué qu'est l'État,
l'organisation collective,
dans finalement l'élaboration de politiques qui visent précisément à sortir d'une condition insatisfaisante. C'est là le dilemme ou la contradiction presque ontologique des droites radicales. C'est à la fois d'opposer les élites contre le peuple, mais les élites ont la capacité par l'État à transformer une société. Et ces mêmes responsables politiques ont un électorat qui considère que l'État ne peut pas changer leur sort individuel.
Alors, on est armé maintenant pour aborder le dernier épisode de notre série sur le populisme, la pente populiste aujourd'hui, le populisme qui vient. Faut-il s'y résoudre? Est-il inéluctable? Soyez au rendez-vous samedi prochain pour la suite et la fin de cette série. Et si vous êtes impatient, il y a toujours les podcasts. Tout est disponible. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.